Retroussons nos manches et plongeons les mains dans la terre. Et puis tant pis si on en a partout sous les ongles. Exploration tactile à la recherche des vers de terre qui se tortillent sous nos yeux. Dégoûtant, amusant ou fascinant, ça dépend des gens. Le vers de terre dont une cartographie mondiale vient de sortir, c'est une première. Car l'animal a un rôle clé pour les écosystèmes. Et nous allons en parler avec un passionné de vers de terre, le chercheur Raphaël Maréchal, l'un des 141 spécialistes à l'origine de cette cartographie. Et on attend vos questions, bien entendu, au 01 45 24 7000 pour le téléphone et avec le mot-clé « l'attaque » sur les réseaux sociaux. On va passer au vert aussi, mais la couleur verte. Et c'est avec vous aujourd'hui, Élodie Font. Bonjour.
Bonjour. On va se demander si les salons de coiffure, eux aussi, se mettent au vert.
À tout à l'heure. Bonjour à vous également, Caroline Tourbe.
Bonjour Camille.
Chronique détox juste après 14h.
Oui, nous allons parler de la peste porcine, de virus, d'astrologie chinoise et de chasse aux sangliers.
À tout à l'heure dans vos solutions pour la planète. Nous passerons un coup de fil à Levent. Il a fondé une plateforme pour boycotter certaines marques pas très éco-compatibles. Et puis un petit tour dans les îles avec notre invitée découverte, la géographe Fanny Rubia, qui est allée voir tout autour du globe comment on s'adapte au changement climatique. Valérie Ayestaraï est à la réalisation, Alix Barrois et Elisabeth Collet à la technique. Et oui, les filles gèrent l'émission aujourd'hui.
Camille Cronier. La Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour Raphaël Maréchal.
Bonjour.
Vous êtes écologue du sol au CIRAD, le Centre de coopération internationale de recherche agronomique pour le développement. Vous êtes à Montpellier et donc passionné de vers de terre. Ça alors, hein, les baleines, ça vous plaisait moins?
Alors, les vers de terre, il faut savoir déjà de façon générale que la biodiversité dans le sol, c'est quelque chose de très important. C'est à peu près 25% de la biodiversité totale. Et plus particulièrement, les vers de terre ont des fonctions écologiques très importante. Donc ils ont des fonctions qui sont fondamentales notamment dans les agroécosystèmes. Donc que ce soit au niveau des cycles des éléments, au niveau de la dégradation donc de la matière organique ou même au niveau d'une stimulation de la croissance des plantes.
Et vous, ça vous a passionné dès tout petit?
Alors l'aspect biodiversité est aussi très très intéressant parce que il y a aussi de nombreuses espèces de vers de terre. Donc ça, je trouve ça aussi passionnant de voir que il y a des milliers d'espèces en fait de vers de terre.
Il y en a combien aujourd'hui qui sont répertoriées?
Alors c'est une bonne question parce qu'en fait des espèces qui sont décrites, il y en a 4700 qui sont décrites. Mais il y a beaucoup d'espèces qui n'ont pas encore été découvertes. Donc en fait si on fait différentes estimations, en prenant en compte le fait qu'il y a beaucoup d'études dans les milieux tempérés, qu'il n'y a pas eu beaucoup d'études dans les milieux tropicaux et que dans les milieux tropicaux il y a beaucoup d'espèces endémiques, on pourra peut-être y revenir, on arrive à des estimations qui vont de l'ordre de peut-être 10 000 espèces, voire certaines estimations vont jusqu'à 40 000 espèces de vers de terre sur la Terre. Donc c'est vraiment important.
Est-ce qu'il y a des grandes familles? On parle beaucoup, les gens connaissent, ils disent les lombriques. Les lombriques, c'est lesquels? C'est ceux qu'on voit dans du compost, par exemple? C'est ceux qu'on voit quand on fait du jardinage?
Alors, non, les lombriques ne sont pas les vers de terre du compost. En fait, alors tout d'abord, au niveau des familles, il y a une vingtaine de familles de vers de terre. En fait, la famille, ça a une signification taxonomique, en fait. Ça correspond à différents groupes de vers de terre. Mais il y a aussi ils sont aussi regroupés en catégories écologiques. Donc les différentes espèces peuvent être classées dans différentes catégories. Alors il y a par exemple les vers de terre qui vivent dans le compost, donc qui sont en général, qui sont petits, qui sont très colorés, qui sont bien rouges, qui sont très vifs, qui bougent rapidement. Ils vivent en fait dans des milieux qui sont très riches en matière organique, comme le compost. Ce sont ces vers de terre-là qui sont utilisés pour tout ce qui est vermicompostage, justement. Donc ça, on appelle ça des épigées. Alors, les lombriques, ça, c'est quelque chose, ce sont des vers qu'on retrouve un peu plus, qu'on retrouve en faisant du jardinage, par exemple. Et là, ils vont faire des galeries verticales.
Donc, d'accord, eux ils se déplacent de bas en haut ou de haut en bas.
Tout à fait. Et donc là ils ont un rôle important au niveau de l'incorporation de la matière organique dans le sol et donc au niveau de la structure du sol aussi. Et il y a aussi une troisième catégorie donc qui sont en fait les vers de terre qui restent toujours dans le sol et ne remontent jamais à la surface.
Donc on les voit jamais.
On les voit jamais, ouais. Sauf si on creuse et sauf s'ils sont dérangés qu'on appelle les endogées, et eux, ils font des galeries horizontales dans le sol. Donc on a là les trois catégories écologiques des vers de terre. Donc les lombriques font partie de la catégorie des anéciques, et les galeries peuvent être assez profondes. Donc c'est ceux qui ont les galeries verticales, et les galeries peuvent être jusqu'à 2 mètres de profondeur à peu près.
Donc le lombricompost n'a pas le bon nom.
Alors le lombricompost, non, on devrait plutôt dire vermicompost.
Parce que
justement on n'utilise pas des lombriques, on utilise des vers de terre qu'on appelle des vers du fumier ou des vers de terreau, qui sont des vers de terre épigés.
Alors juste avant de parler de cette cartographie à laquelle vous avez participé, est-ce qu'on pourrait juste faire une carte d'identité un peu du ver de terre? C'est grand comment? Ça vit combien de temps? Combien ça peut ingurgiter d'éléments dans la terre?
Alors là, au niveau des vers de terre, donc au niveau de la taille, c'est assez variable. Donc ça va de 2 cm jusqu'à, je veux dire, 1 mètre ou 2, ou même le record, c'est un vers de terre d'Australie qui peut faire 3 mètres de long.
3 mètres de long,
oui,
pour un vers de terre? Mais il reste fin ou il est gros?
Il reste relativement fin. En fait, c'est pas très impressionnant au niveau du diamètre.
C'est quelques centimètres. C'est pas un gros serpent. Hein.
C'est pas comme un gros serpent, mais il peut faire 3 mètres de long. Donc au niveau de la longueur, on a à peu près cette gamme-là. Donc les vers de terre, ce sont donc des invertébrés. Et ils ont en fait dans leur corps un liquide qui fait office de squelette. On appelle ça un hydrosquelette, en fait. Et ils sont segmentés, ça on peut voir sur n'importe quel ver de terre, on voit les différents anneaux qui sont en fait des segments qui sont séparés à l'intérieur par des parois. Et au niveau des différents muscles, en fonction de la contraction du corps, ils peuvent contracter ou allonger certains anneaux.
Comme un accordéon, un peu.
C'est comme ça, exactement. Et c'est comme ça qu'ils se déplacent. Si vous regardez un ver de terre se déplacer, vous allez voir qu'il va allonger les segments plutôt vers la tête et puis ensuite contracter les segments qui sont plutôt vers la queue. Et donc pour s'aider justement dans cette locomotion-là, ils ont des soies, des espèces de petits poils qui sont donc sur la peau du ver de terre.
D'accord.
Et sur la peau, ils ont aussi un mucus. Alors pourquoi avoir un mucus? C'est parce qu'en fait, ils respirent par la peau. Donc ils n'ont pas d'organes comme nous, de poumons et tout ça. Donc ils ont besoin d'avoir la peau qui est toujours humide et pour pouvoir, pour que l'oxygène diffuse dans le corps. Et c'est pour ça qu'ils ont un mucus, pour garder la peau humide.
Alors vous êtes donc l'un des rares spécialistes dans le monde. Comment on dit d'ailleurs un spécialiste des vers de terre?
Alors on peut dire géodrillologue, mais le terme n'est pas souvent utilisé.
D'accord.
On peut dire spécialiste des vers de terre.
Il n'y en a que 141 dans le monde, c'est ça, des
spécialistes? Alors il y a une grosse centaine de spécialistes de vers de terre dans le monde.
Et donc vous vous êtes tous mis ensemble pour établir cette toute première cartographie des vers de terre, cartographie mondiale publiée dans la revue Science le 25 octobre dernier.
Oui.
7000 sites environ, 57 pays. À quoi ça sert de faire une cartographie mondiale des vers de terre?
Alors, donc, c'est une première et ça montre comme ça une répartition géographique, donc à la fois des densités de vers de terre, des biomasses de vers de terre et aussi donc de la diversité des vers de terre. Donc ça donne une première idée. À partir des 7000 sites qui ont été échantillonnés, il y a eu des modèles qui ont prédit en fait les densités, les biomasses de vers de terre dans les zones qui n'avaient pas été échantillonnées. Donc ça, c'est avec la modélisation a permis d'avoir une prédiction. Et ça permet justement, ça a permis aussi de tester les différents paramètres qui ont une importance par rapport à la distribution des vers de terre.
Vous avez appris quoi alors en faisant cette étude? Des choses importantes par rapport au changement climatique par exemple?
Oui, voilà. Alors... Par rapport au changement climatique, donc il y a différents facteurs qui ont été testés. On remarque que c'est la température et les précipitations qui sont parmi les facteurs qui influencent le plus la répartition des vers de terre. Et donc, avec le changement climatique, on peut s'attendre justement à des modifications et à un effet néfaste sur les vers de terre. Si on regarde les cartes, on voit notamment que dans les zones désertiques, il n'y a pas de vers de terre. C'est parce que au niveau du Sahara, au niveau des déserts ou dans les zones qui sont gelées en permanence, il n'y a pas de vers de terre non plus. Et en fait, les vers de terre, comme ils respirent par la peau, ils sont très sensibles à la sécheresse. Et donc, quand il y a de la sécheresse, il y a donc les vers de terre rentrent en vie ralentie, donc ils limitent leur activité. Ils peuvent éventuellement, il peut y avoir de la mortalité aussi, ils peuvent mourir si la sécheresse est trop importante, s'il y a des températures trop élevées.
Donc vous vous êtes rendu compte que non seulement c'est pas les sols qui déterminent leur habitat, c'est plus le climat, et que ce climat peut les menacer. Donc les vers de terre, eux aussi, deviennent une espèce en danger avec le changement climatique.
Alors au niveau des sols, les sols ont aussi une importance, mais à l'échelle globale, ce qu'on a vu, c'était les facteurs climatiques qui avaient le plus d'importance. Alors oui, justement, les vers de terre deviennent des espèces en danger parce que principalement les endroits où il y a beaucoup d'espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces qui ont des aires de répartition très réduites. Alors là, au niveau du changement climatique, il peut y avoir un effet important. Et c'est principalement le cas justement dans les tropiques. Il y a beaucoup d'espèces endémiques. Donc par exemple, il y a les menaces du changement climatique, mais aussi d'autres menaces comme la déforestation, surtout si c'est la déforestation qui est due à des incendies. Par exemple, cet été, on a beaucoup parlé des incendies en Amazonie. Il faut savoir que quand il y a un incendie de ce type-là, la température du sol peut atteindre 200 degrés à 15 cm de profondeur. Donc, on imagine bien qu'il y a beaucoup de mortalité, enfin, qu'il n'y a pas grand-chose qui survit à cette température-là. Et comme les vers de terre vivent principalement dans les premiers centimètres du sol, évidemment, ça les impacte fortement. Et tous les phénomènes de sécheresse...
Pourquoi Hubert Reeves, l'astrophysicien, dit que la disparition des vers de terre est un phénomène aussi inquiétant que la fonte des glaces? Est-ce que vous trouvez que c'est vrai et pourquoi?
Oui. Ah oui, alors tout à fait. Parce qu'en fait, les vers de terre, comme je disais, ont différentes fonctions écologiques. Alors il y a des effets qui peuvent avoir un lien avec le réchauffement climatique, dans le sens où en stockant la matière organique, ils peuvent aussi, dans une certaine mesure, stocker du carbone dans le sol. Donc ça c'est une des fonctions des vers de terre. En fait, de façon globale, donc les vers de terre se nourrissent de débris de végétaux ou de sol avec de la matière organique dans le sol, et ensuite vont dégrader ces débris de végétaux et ces matières organiques. Donc évidemment, il y a une partie qui est assimilée par le vers de terre, mais il y a une partie qu'on retrouve en fait dans les déjections. Et en surface, on peut voir, ça c'est les déjections des anéciques qu'on appelle des turricules, c'est des petits tourtillons en surface.
Ça, ce sont des déjections de vers de terre.
Oui, tout à fait. Il y a aussi des déjections à l'intérieur des galeries, et donc dans ces déjections-là, c'est des déjections qui sont à la fois, qui vont en fait, relarguer des éléments nutritifs qui sont absorbés par les plantes, et aussi qui vont participer à l'enrichissement de la matière du sol en matière organique, donc en carbone.
Donc ça pose un problème au niveau du carbone et également au niveau de la fertilité des sols potentiellement.
Oui, tout
qui
à fait.
Nous nourrissent évidemment.
Exactement, exactement. Donc, de façon générale, il y a aussi l'aspect sur la structure du sol, dans le sens où les vers de terre, par les galeries et par les agrégats qu'ils vont faire, c'est-à-dire les déjections dans le sol, c'est comme des petites boules qui sont un peu plus solides, donc ça va faire des agrégats, ça va participer à l'aération du sol, à l'infiltration de l'eau. Et donc tous ces mécanismes-là, au niveau des nutriments, au niveau de la structure du sol et d'autres mécanismes aussi, vont avoir un effet, notamment sur les plantes. Et de façon générale, en présence de vers de terre, on estime qu'il y a eu des expériences qui ont montré qu'il y avait une augmentation de la croissance des plantes de 23% en moyenne
en présence de vers de terre. Raphaël Marichal, vous bougez pas, on n'en a pas fini avec les vers de terre. On va poursuivre cette discussion avec les auditeurs au standard. Je rappelle le numéro 01 45 24 7000. Également sur l'appli France Inter et les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque. À tout de suite.
France Inter. La Terre au carré.
Élodie Font, c'est donc vous qui passez au vert ce vendredi et vous nous emmenez chez le coiffeur.
Exactement. On se connaît pas encore très bien, Camille, mais je voulais partager avec vous et avec les auditeurs l'une de mes passions, à savoir les cheveux. Oui, parce que je fais partie de ces gens qui ont eu des cheveux blancs avant leur mère et donc très jeune, je me suis posé la question de les teindre. J'aurais pu les garder blancs, vous allez me dire, mais j'ai pas osé. Et comme j'avais un peu peur de ce que l'on allait me mettre sur le crâne, j'ai opté pour la coloration végétale à base de plantes sans produits chimiques type ammoniac que l'on retrouve dans les teintures classiques. Et nous sommes de plus en plus nombreux à nous intéresser aux teintures écolo. Allons chez BioCoiff et BioBella.
Ça fait plus de 15 ans que j'attendais ça. Je suis allergique à la diamine et à tout ce qu'il y a dans les teintures chimiques. Donc je ne pouvais me faire que des nez et je devenais de plus en plus rouge.
Jusqu'à maintenant, je faisais des mèches chimiques et je ne veux plus abîmer mes cheveux. Ils étaient très abîmés, je fais ça depuis des années et du coup, voilà.
D'apparence, un salon bio, on va pas se mentir, ressemble à un salon classique. Il y a des bacs à shampoing, des coiffeurs qui vous parlent de gainer vos cheveux, j'adore cette expression, et des gens qui hésitent entre avoir peur pour leur tête et s'assoupir. Mais ici, pas d'odeur d'ammoniac.
plutôt une odeur assez étrange, celle d'une tisane que vous auriez très très longuement laissée infuser.
Ouais, moi je trouve que ça sent plutôt la paille mouillée, mais
ouais. À peu près. En tout cas, une odeur
ça
effectivement
sent pas très bon, on peut le dire.
Assez curieuse. Pour Dominique Erard, qui est médecin, c'est un danger en moins pour nos corps malmenés.
C'est très simple, c'est un peu comme si on vous mettait un pesticide sur la tête. Il y a des perturbateurs endocriniens dans les molécules utilisées pour les colorations. Il faut faire autant attention à ce qu'on se met sur sa peau que ce qu'on mange.
Donc là, on parle de teinture classique, mais ce danger, il est invisible pour les teintures classiques. C'est-à-dire que quand vous allez chez le coiffeur, sur le coup ou les jours qui suivent, rien ne se passe. C'est à long terme, 10, 20, 30 ans après, que nous pourrions avoir des cancers ou des maladies chroniques.
Tout a été dit et redit. Mais c'est un peu comme les accidents de la route, vous savez, tant qu'il n'y a pas eu 5 morts à un virage, on ne mettra pas que c'est dangereux.
Sachant que 1 million de personnes vont chaque jour chez le coiffeur. Chaque jour, 1 million, ça me semble dingue. Et plus de la moitié des femmes qui vont dans un salon demandent une couleur. Donc imaginez la taille du marché de la teinture et les intérêts financiers des groupes cosmétiques qu'il y a derrière. Ceux qui sont les plus touchés, de manière visible rapidement, on va dire, ce sont les coiffeurs eux-mêmes. Parmi ceux rencontrés dans des salons bio, quasiment tous ont déjà eu des problèmes d'allergie.
Avant d'arriver sur le végétal, donc je tombais enceinte. Donc et du coup, je supportais aucun produit chimique. Donc en gros, tout ce qui est l'odeur, ça me donnait une nausée. J'ai dû démissionner et trouver un salon qui fait du végétal.
J'avais mes mains qui gonflaient, j'avais plein d'éruptions cutanées. Ça me grattait, ça me démangeait, je saignais en fait. C'était une passion et j'avais rien d'autre en tête à faire autre chose.
Sur les 100 000 coiffeurs qui travaillent en salon en France, la profession estime qu'environ 12% seraient touchés par des problèmes respiratoires, des allergies, des œdèmes. 12 000 personnes, c'est énorme.
Oui, et est-ce que justement en voyant ces chiffres, la profession s'est dit qu'il fallait qu'elle accélère sa mutation vers le bio?
Alors, il y a un label développement durable, Mon Coiffeur s'engage, pour récompenser ceux qui se lancent dans la couleur végétale, mais aussi qui économisent l'énergie, l'eau, et même pour certains qui recyclent les cheveux, parce que figurez-vous que c'est génial pour fertiliser les champs, pour mieux isoler, puisqu'on renforce le béton avec des cheveux, ou encore pour filtrer les hydrocarbures dans les océans. Sauf que sur les 37 000 salons de coiffure qui existent en France, accrochez-vous bien, le label ne récompense que 200 d'entre eux. 200 sur 37 000. On va dire que c'est une vaguelette verte, hein. On n'est pas vraiment sur de la grande vague. Et c'est, entre autres, parce qu'il y a un problème de formation dans les écoles. Jacques Minjolet dirige les institutions de la coiffure.
Il est vrai que les salons de coiffure ne trouvent pas de jeunes ou de salariés formés au végétal. Et qu'actuellement, selon ce que je sais, selon mes connaissances, il n'y a pas de formation spécifique à l'utilisation des produits végétaux. Donc il y a un problème d'adéquation entre l'offre et la demande.
Sachant qu'un bac pro coiffure va naître l'année prochaine, donc ça bouge, on peut être optimiste, et surtout on peut être optimiste puisque les choses évoluent. Il paraît qu'au Moyen-Âge, on se teignait les cheveux, entre autres, avec de l'urine fermentée.
Ouais, en même temps, cela dit, c'est écologique.
Oui, alors hein, ça, c'est sûr.
Élodie Passauvert, c'est à réécouter sur franceinter.fr. Élodie, une question pour notre invité.
Exactement, Raphaël Maréchal, question existentielle. Vous parliez de poils tout à l'heure pour les vers de terre. Est-ce qu'ils en ont sur la tête?
Alors ils ont des soies en fait sur le corps et qui permettent de justement s'accrocher un peu au niveau du sol et donc ça leur permet de s'avancer dans la locomotion, mais c'est tout petit, hein, c'est vraiment des soies qui sont très
c'est un peu comme
petites.
Pour nous quoi, on se sert de nos cheveux pour avancer.
Raphaël Maréchal, écologue des sols, il y a des questions pour vous, hein, sur les vers de terre au 01 45 24 7000 et sur internet. On retrouve les auditeurs évidemment, les vers de terre juste après Abel Chéré, L'amour saignant.
Jute la pulpe rosée de nos lèvres arrosées au jardin de nos baisers. Dans ce fruit innocent brille tes dents comme un gourou qui harangue les âmes perdues, ma langue s'attendrit en chair de mangue. Passe la herse de craie de ton palais. Alors se ferme d'un coup sur l'organe de mon goût comme la mâchoire d'un loup dans la peau d'un agneau, ton massicot. Adieu amour mielleux, je mécanine, c'est un fleuve hémoglobine qui coule entre nos babines. On savoure ce breuvage anthropophage et de ce cocktail féreux déguerpit l'amour peureux, laissant s'étouffer le feu que l'on attise en vain jusqu'au matin. Adieu amour mielleux, emporte l'amour morné. Nous nous regardons gênés et s'échappe le deuil en un clin d'œil.
Programmation musicale signée Thierry Dupin.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Camille Cronier sur France Inter.
Moi, j'aime pas trop les vers de terre parce que ça a un aspect un peu bizarre.
Ça permet d'aller à la pêche.
Ça me dégoûte un peu quand même quand j'en vois.
Gluant, gluant, gluant.
Ça n'a rien de particulièrement sympathique. La communication avec un vers de terre est assez limitée quand même.
C'est long, ça va du deuil.
Un peu dégoûtant.
Quand on n'y connaît pas grand-chose, on se dit ah, c'est répugnant, on a envie de l'écraser. Puis c'est vrai qu'en fait, c'est quelque chose d'utile.
C'est tellement petit comme des limaces là, gros comme ça. Bah, moi, j'aime pas.
Voilà quelques réactions quand on demande aux gens ce qu'ils pensent des vers de terre dont on parle aujourd'hui avec vous, Raphaël Marichal, l'un des 141 spécialistes dans le monde des vers de terre. Comment on dit déjà les spécialistes des vers de terre? Les
géotrilologues.
Les géotrilologues. Il n'y en a pas beaucoup, écologues des sols au CIRAD. Dégoûtant, donc, disent les gens, mais quand même, il y a un petit capital sympathie avec les vers de terre, ce n'est pas des animaux qu'on déteste.
Alors, je pense que l'aspect, je pense que c'est l'aspect gluant, en fait, qui peut rebousser certaines personnes. Mais en fait, quand on observe de façon précise un vers de terre, on se rend compte qu'il y a un comportement tout à fait intéressant. Et c'est d'un point de vue, comportemental, c'est aussi intéressant. La façon dont il fuit la lumière, c'est, je pense que c'est tout à fait intéressant d'observer les vers de terre.
Alors, on a beaucoup de questions. On va au standard 0145 24 7000. Bonjour Marie-Renée.
Bonjour.
Bienvenue, nous écoutons votre question.
Alors, c'est une double question. Je m'interrogeais sur le rôle des vers de terre par rapport à la prévention des inondations et aussi à leur fragilité par rapport à l'usage des désherbants en agriculture et dans les jardins.
Merci Marie-Renée pour votre question. Oui. Raphaël Marichal.
Oui, par rapport à la première question, donc de fait, les vers de terre, principalement les vers de terre anéciques, dont font partie les lombriques, vont faire des galeries verticales et en fait vont jouer donc sur la structure du sol. Et avec les galeries verticales, donc l'eau va mieux s'infiltrer dans le sol et va moins ruisseler à la surface. Donc de ce fait, c'est des mécanismes qui peuvent atténuer en fait les inondations. Par rapport à la deuxième question, donc l'effet des herbicides sur les vers de terre, donc là il y a des expériences en laboratoire, notamment sur différents herbicides et notamment sur le glyphosate, et qui montrent que le glyphosate est toxique sur les vers de terre. Donc le vers de terre qui est souvent utilisé par rapport à ces expériences, c'est Esenia fetida, donc c'est le vers du fumier. Après, on sait aussi qu'il y a des vers de terre qui sont beaucoup plus sensibles aux pesticides de façon générale que les vers sur lesquels sont faites ces expériences-là. Donc ça pose aussi des questions.
Par rapport à l'agriculture, on a Marie aussi qui nous parle des labours hein, qui sont toujours très profonds et qui font visiblement du mal aussi aux vers de terre.
Oui. Alors ça, le labour, ça fait ça peut diminuer les populations de vers de terre parce que il y a un premier effet, c'est au moment où passe le socle de la charrue, il y a un certain nombre de vers de terre donc qui se font couper. Alors j'en profite pour rappeler que si on coupe un vers de terre en deux, on n'obtient pas deux vers de terre.
Ah, c'est une légende.
C'est une légende.
Ah mince, je voulais vous demander justement.
C'est tout à fait une légende, dans le sens où
il y a... il est mort ou...
Alors, la partie où il y a la tête peut survivre, et il peut y avoir une régénération de la queue, si jamais cette partie-là survit, mais sinon la partie de la queue meurt. Ça, c'est, à mon avis, ça vient du fait que si on coupe un vers de terre en deux, les deux parties continuent à bouger pendant de longues minutes, donc à mon avis. Et par rapport juste au labour, donc il y a cet aspect de mortalité. Et puis il y a l'aspect aussi d'exposition donc aux prédateurs. Quand on regarde un champ qui est en train d'être labouré, on voit souvent des mouettes qui mangent les vers de terre qui sont à la surface. Et il y a le fait aussi que le labour, ça détruit tout l'habitat des vers de terre, ça va détruire les galeries qu'ils ont faites. Donc comme ça, si c'est un labour principalement, si c'est un labour qui est profond et qui est fréquent, on a un effet néfaste sur les populations de vers de terre.
Puisque vous parlez d'agriculture, question de Gérard, peut-on dire que si un jour les vers de terre disparaissent, il n'y aura plus d'agriculture ?
Alors, je dirais que les vers de terre sont très importants pour l'agriculture et pour les fonctions, au niveau des fonctions qu'ils occupent.
De fertilisation des sols,
exactement,
en l'occurrence.
Exactement. Et donc, les vers de terre sont, disons, des acteurs de nos alliés et des acteurs pour la transition agroécologique et sont très, très importants. Donc, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte dans les techniques agricoles et on doit prendre en compte les vers de terre. Après, dire qu'il n'y a plus d'agriculture, je pense que c'est un peu exagéré, mais en tout cas, il faut prendre en compte les vers de terre. Ils ont un rôle à jouer dans la transition agroécologique.
Nous sommes avec Annie au standard. Bonjour Annie, bienvenue sur France Inter.
Oui, bonjour.
Nous écoutons votre question.
Oui, j'ai deux questions. Je voudrais connaître le mode de reproduction des vers de terre et le prédateur qu'ils ont sous la terre.
Alors en fait, pour le mode de reproduction, il y a les vers de terre, donc pour la plupart des espèces, sont hermaphrodites, c'est-à-dire à la fois mâles et femelles. Donc en général, les organes mâles arrivent à maturité avant les organes femelles. Et en fait, il y a un accouplement. Par contre, ils sont hermaphrodites, mais ils ont besoin de s'accoupler. Lors de l'accouplement, il y a un échange de sperme qui est ensuite stocké dans des spermathèques. Et c'est ensuite après l'accouplement qu'à partir du clitellum, le clitellum c'est en fait la bague qu'on voit souvent sur les vers de terre, ça montre que le vers de terre est adulte. Mm-hmm. À partir de là, donc, se forme un cocon qui va se détacher du vers de terre et il y a fécondation dans le cocon. Il va y avoir un ou plusieurs embryons dans le cocon qui va être dans le sol et à partir de là vont naître quelques petits vers de terre. Par rapport aux prédateurs dans le sol, donc il y a différents prédateurs dans le sol, notamment la taupe qui mange des vers de terre.
D'accord. Et question de Frédéric, lorsqu'il pleut beaucoup, on trouve des vers de terre à la surface du sol, oui. Pourquoi ?
Alors tout simplement parce que les galeries sont inondées et ça pose des problèmes aux vers de terre pour respirer. Et donc c'est pour ça qu'ils vont remonter à la surface pour retrouver de l'oxygène. Et une fois que la pluie est passée puis que les galeries ne seront plus inondées, ils vont rentrer dans le sol.
Nous sommes avec Luc au téléphone. Bonjour Luc.
Bonjour.
Raphaël Maréchal, écoute votre question.
Alors, oui, on a parlé le week-end dernier à Sens, on a fait le festival du cinéma, festival des possibles, des vers de terre, de glyphosate, etc. Et pour ma part, je voulais savoir si, quand on emploie de la bouillie bordelaise sur des arbres, les retombées peuvent être toxiques pour les vers de terre, parce que c'est souvent employé en agriculture biologique, justement, il me semble.
Alors, Raphaël, merci Luc pour votre question sur cette bouillie bordelaise. Raphaël Maréchal.
Oui, et en fait, il y a des études qui montrent qu'à forte dose, la bouillie bordelaise peut avoir un impact négatif sur les vers de terre. Et puis, donc, justement, le défi à l'heure actuelle, c'est de trouver justement des méthodes agroécologiques qui vont permettre de stimuler les populations de vers de terre et en trouvant des alternatives justement aux pesticides.
Très vite, comment on en fait d'ailleurs revenir dans son jardin, demande Christophe par mail.
Alors justement, en utilisant de la fertilisation organique, dans le sens où si Il faut nourrir le sol en fait, et nourrir les vers de terre en apportant du compost ou en apportant d'autres matières organiques. Et comme ça, ça va favoriser les vers de terre.
Merci beaucoup Raphaël Maréchal d'être venu parler avec nous de votre passion des vers de terre et donc de cette cartographie tellement précieuse parue le 25 octobre dernier dans la revue Science. Juste après les infos, la chronique détox de Caroline Tourbe aujourd'hui sur la peste porcine. France Inter, 14h.
Inter, la Terre au carré.
Deuxième demi-heure de la Terre au carré avec une plateforme qui compile tous les appels à boycott de marques, de produits ou de lieux qui ne font pas du bien à notre environnement dans vos solutions pour la planète. La géographe Fanny Rubia viendra nous parler de son film Utopia, un tour des îles et des idées qu'elle développe pour s'adapter au changement climatique. Mais d'abord, direction la Chine avec vous Caroline Tourbe pour votre chronique détox.
Oui, alors l'année 2019, c'est l'année du cochon en Chine, selon la tradition. Ce signe astrologique, il est réputé pour son caractère joyeux, enthousiaste, et il est censé correspondre à une période de grande prospérité, sauf que l'astrologie n'est décidément pas une science exacte, et que c'est tout l'inverse qui s'est déroulé, surtout pour les cochons.
Alors en cause, la diffusion d'un terrible virus dans les élevages de porcs chinois.
Oui, ce terrible virus, seul représentant de sa famille, les Asphaviridés, est plus connu sous le nom de virus de la peste porcine africaine. S'il est absolument sans danger pour l'homme, hein, c'est important de le rappeler, il est mortel par contre pour plus de 90% des cochons d'élevage. Il provoque des fièvres, une perte d'appétit, des hémorragies, et il n'existe aucun traitement et aucun vaccin contre cette maladie. En Chine, c'est simple, c'est l'hécatombe.
Avant, tout était rempli. Mais avec la peste porcine, je n'ose plus acheter et élever de cochons. Tous mes cochons ont été abattus. Dans mon autre porcherie, j'en avais 400. Ils sont tous morts.
Ce reportage de France Télévisions date d'il y a environ 5 mois. Il a été tourné à 2 heures de route de Pékin. Depuis, de nouvelles mesures de sécurité ont été prises par les autorités. Mais comme l'élevage reste traditionnel et que les mesures d'hygiène sont difficiles à généraliser en Chine, l'abattage massif des porcs infectés et de leurs voisins reste largement pratiqué.
Est-ce qu'on sait, Caroline, combien d'animaux ont été abattus cette année?
Non, c'est polémique, c'est difficile à dire. Les autorités chinoises sont pas très enclines à la transparence. Officiellement, la FAO, l'Organisation Mondiale de l'Alimentation, rapporte qu'environ 5 millions d'animaux auraient été abattus en Chine en un an. Mais certains experts, notamment ceux d'une banque néerlandaise, estiment que ce chiffre est bien plus élevé. Jusqu'à 7 porcs sur 10 auraient disparu déjà à cause de la peste porcine africaine.
Et alors, ce qui marque les experts, c'est la rapidité et l'ampleur de cette flambée de la maladie.
Oui, car en Asie, le problème ne se limite plus du tout à la Chine. Désormais, le Vietnam, le Laos ou la Thaïlande sont concernés. Tout va donc très vite et très loin.
C'est quoi? C'est la mondialisation des échanges qui sert de tremplin au virus?
Exactement. Et d'ailleurs, déjà dans les années 50 et 60, les échanges commerciaux étaient à l'origine de premières flambées en Europe, bien loin du berceau africain du virus. Il est doté d'une très grande résistance à la chaleur, ce virus. Il peut résister au froid également. Et donc, il peut entreprendre de grands voyages bien cachés dans les semelles d'un chauffeur, par exemple, dans les recoins d'un camion, les recoins sales d'un camion ou bien d'un bateau.
Et c'est comme cela d'ailleurs qu'il est réapparu en 2014 sur le continent européen.
Oui, en 2014. Un bateau en provenance du Mozambique a accosté en Géorgie avec à son bord des restes de graisse porcine contaminée. Mmh. Et ça n'a pas raté, bim. Le virus de la peste porcine africaine a commencé à circuler de l'est vers l'ouest de l'Europe. Et aujourd'hui, il est en Belgique, aux portes de la France.
Le danger viendra de là, à quelques centaines de mètres de la ferme, c'est la frontière belge. Par où les sangliers viennent souvent sur les terres de cet agriculteur. Il est en première ligne et pas heureux de ce qui se passe en Belgique.
La maladie, elle n'attend pas sur un certain niveau. La maladie, quand elle est sur un noyau, c'est comme une bulle d'eau. Elle fait que de s'agrandir de tous les côtés. Donc si vous n'anticipez pas au bout de quelques jours, bah, vous n'avez pas le temps de réagir. Donc c'est ce qui se passe. Si nous, on ne réagit pas maintenant pour l'arrêter, c'est une ligne. Hein. On a décidé de faire une ligne en frontière parce que c'est un changement de pays. Mais il fallait déjà faire ça il y a 10 jours en Belgique. Hein. Il est trop tard.
Comme on l'entend dans ce reportage de la télévision publique belge qui a été réalisé le mois dernier, il n'y a pas que l'activité humaine en fait qui permet au virus de passer la frontière, il y a aussi les sangliers. Ces animaux sont devenus les ennemis publics numéro un pour les éleveurs français avec des centaines de kilomètres, de clôture électrique tendue à la frontière belge.
Mais ça marche une barrière électrique contre un virus?
Alors contrairement à ce que craignait l'agriculteur dans le reportage, pour l'instant la réponse est oui, surtout si cette barrière est combinée à une chasse ciblée dans les zones frontalières. Évidemment, si les éleveurs ont si peur de voir voir des sangliers infectés entrer en France, c'est parce qu'ils craignent une contamination directe de leurs élevages. Mais pour la grande majorité de la production française, qui se fait dans des bâtiments fermés, les dégâts pourraient être évités avec des mesures de confinement et d'hygiène drastiques.
Alors les éleveurs, ils ont quand même peur aussi de rater une occasion en or.
En fait, c'est vraiment ça. La grande conquête de l'empire du milieu, ça pourrait avoir lieu maintenant. En effet, les Chinois sont aux abois. Ils sont les premiers consommateurs de porc au monde. Leur cheptel est décimé. Déjà, les exportations vers l'Europe, de l'Europe vers la Chine ont bondi de 20 à 30% ces derniers mois. Et c'est pas fini. Sauf que les fournisseurs doivent garantir aux autorités chinoises le fait qu'il n'y a pas de peste porcine africaine sur leur territoire. Il suffirait presque d'un seul sanglier pour que tout bascule. On comprend mieux pourquoi les allers-retours aux frontières inquiètent les éleveurs.
Alors, dernière question. Est-ce que cette crise de la peste porcine va durer longtemps?
Eh bien, tout se joue en ce moment, Camille, avec des recherches qui s'accélèrent pour trouver des médicaments, des vaccins. Mais l'histoire a déjà montré que le virus peut s'installer pendant plusieurs décennies dans un pays, comme ce fut le cas en Espagne dans les années 60. Et il peut même s'installer indéfiniment, comme en Sardaigne, où les éleveurs ont appris à vivre avec ce péril depuis les années 70.
Et votre chronique détox sur cette peste porcine est à retrouver sur notre site internet, bien sûr, franceinter.fr.
France Inter, la Terre au carré, vos solutions pour la planète.
Nous sommes en ligne avec Levente. Bonjour Levente.
Bonjour.
Bon, on doit vous la faire à chaque fois, mais il vient d'où votre prénom ?
Levente, c'est d'origine turque.
Ah, c'est d'origine turque, d'accord. Alors vous avez créé avec votre frère Bulent, on dit Bulent cette fois ?
C'est ça.
La plateforme iBoycott sur Internet. Qu'est-ce qu'on boycotte alors ?
Alors, l'idée en fait, tout simplement, on est parti d'un constat très simple, c'est que quand on regarde des reportages de type enquête d'investigation, on se rend compte que les grands acteurs multinationaux sont à l'origine de plusieurs scandales économiques, et à la fin de ces émissions, bah, souvent on partage, mais on reste frustré sans avoir de levier d'action. Et du coup, nous, l'idée, c'est d'agir justement face à ces multinationales pour leur demander d'évoluer.
Quelle multinationale alors ? Vous pouvez nous donner des exemples de campagnes qui ont été réalisées ?
Bien sûr. Par exemple, il y a Petit Navire qui était sur les dispositifs de concentration de poissons. Il y a Starbucks qui ne paye pas d'impôts depuis 2004. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de rentrer en dialogue avec ces marques à travers notre pouvoir d'achat, qui est le vote, en fait, des consommateurs.
Et ça marche, le boycott ? C'est-à-dire que ça a vraiment des résultats derrière ?
Oui, alors ce qui est intéressant en fait sur la plateforme et comment on l'a mis en place, c'est de demander en fait de donner un droit de réponse à la multinationale. La multinationale peut répondre à l'ensemble des boycottants avec des engagements pris suite à la campagne de boycott, et en fait chaque personne va voter pour la levée ou pas du boycott. Et sur la moitié des campagnes qui ont été lancées, nous avons reçu une réponse d'une multinationale, donc c'est une victoire en soi. Et sur la moitié des réponses, il y a eu, en fait, les multinationales ont pu convaincre les consommateurs.
Parce que justement, ils vous répondent, mais est-ce que c'est suivi d'action ? Parce que si juste ils vous répondent pour vous répondre, il y a pas d'intérêt. Et derrière, il y a des changements dans leurs pratiques ?
Exactement. Et c'est là que c'est intelligent, c'est qu'on fait appel à l'intelligence collective. C'est que les entreprises répondent directement aux consommateurs. Si les entreprises répondent à travers des promesses, malheureusement, cela ne convainc pas les citoyens. Mais par contre, s'ils mettent en place des choses factuelles et qui vont chercher crédibilité auprès des associations sur le terrain, alors là, le consommateur peut être convaincu.
Et comment ça fonctionne ? C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux boycotter une boîte si je veux ?
Oui, alors les citoyens peuvent lancer leur propre campagne de boycott, mais ce qui est important, c'est bien sûr, on veut un boycott constructif, donc pas de diffamation, pas de discrimination, pas de dénigrement et pas de contrefaçon de marque. L'objectif, c'est d'inviter l'entreprise à faire évoluer et à effacer, en fait, entre guillemets, à ne plus reproduire ces scandales économiques.
Et comment on fait les ventes ? Alors, on va sur votre site internet iBoycott, on s'inscrit. Voilà. Si moi, j'ai envie, par exemple, de lancer une campagne contre telle ou telle marque ou tel lieu, comment je fais ? Vous allez quand même vérifier que c'est pas juste, je suis en train de régler mes comptes avec quelqu'un.
Oui, ça c'est important. Typiquement, si c'est une association qui le lance, la campagne est directement publiée. Par contre, si c'est un citoyen qui le lance, ça passe par une période d'incubation où les gens vont vérifier les revendications de la campagne, l'image utilisée sur la campagne et le contenu de la campagne. Et en fonction de cela, s'il y a 1000 boycottants qui participent à la campagne, alors la campagne est officiellement publiée. L'idée, c'est pas de boycotter le petit boulanger du coin, mais vraiment contre ces acteurs, ces grands acteurs économiques.
Alors les ventes de votre plateforme, elle a 3 ans, hein, c'est ça. Elle a été lancée en juin 2016, avec d'ailleurs notre cher Guillaume Meurice, hein, comme parrain. Il y a même sa photo sur votre site. Coucou Guillaume. Le but, c'est quoi? C'est de faire de la sensibilisation ou c'est vraiment juste de dire aux multinationales ou à d'autres, attention, on vous regarde et on vous surveille?
C'est simple, c'est de remettre l'éthique au cœur de l'économie. Aujourd'hui, l'éthique n'est pas un facteur économique parce que nous, consommateurs, nous créons pas ce risque à travers l'éthique. Donc notre credo, il est simple, c'est pas d'éthique, pas de chocolat. Et c'est de discuter justement avec ces multinationales grâce à ce biais-là, notre pouvoir d'achat.
Et vous parlez donc, vous nous l'avez dit rapidement, d'un boycott bienveillant. C'est quoi un boycott bienveillant? On boycotte ou on boycotte pas? Quelle est la nuance?
C'est vrai. Eh ben, c'est dans la construction en fait du boycott. On peut boycotter pour des raisons qui sont illégitimes, mais par contre, nous, ce qu'on veut, c'est que le boycott construit au dialogue et que la marque en ressort grandie. Si aujourd'hui on demande à Starbucks de payer des impôts en France, c'est pour participer à l'effort fiscal en France.
Et ça, ils le comprennent.
Ça, ils le comprennent. Donc après, typiquement, Starbucks, ils ont fait une réponse. Ça n'a pas convaincu la majorité des boycottants. La campagne continue. Sur d'autres campagnes comme Petit Navire, la première réponse était un petit peu bateau. C'est pour le petit jeu de mots. Et par contre, sur la deuxième, ils ont pris des vrais engagements avec notamment Greenpeace à travers un audit tous les 6 mois. Donc ça a convaincu les consommateurs.
Vous avez eu l'idée de lancer ce site avec votre frère parce que vous aviez en ligne de mire une entreprise que vous vouliez boycotter?
Oui, en partie, mais c'était surtout, c'est né vraiment de cette frustration et de cette impuissance que le rôle du consommateur dans la société de manière générale, on nous demande de voter tous les 5 ans, alors qu'on vote aujourd'hui réellement tous les jours avec notre carte bleue.
Donc c'est une façon, vous dites, de devenir, vous dites, consommateur, c'est ça?
C'est ça.
C'est une façon de quoi, de encore une fois, de pouvoir s'affirmer. Est-ce que vous pensez que les multinationales, malgré le fait qu'elles fassent des réponses et que pour certaines que vous avez citées, ont éventuellement changé quelques pratiques, est-ce que vous pensez que ça les arrête quand même, ces histoires de boycott?
Alors, ce qui est intéressant en tant que consommateur, ce qui est important, c'est que typiquement, la différence d'un consommateur avec un consommateur, c'est que le consommateur va d'abord privilégier la marque de l'entreprise. Le consommateur va aller chercher les pratiques de l'entreprise pour pouvoir savoir si on va consommer ou pas. Du coup, être consommateur, c'est boycotter. Donc boycotter, c'est ne pas acheter pour des raisons éthiques. Boycotter, c'est acheter pour des raisons éthiques. Typiquement, quand vous achetez bio local, vous boycottez. Et sur l'efficacité du boycott, ce qui est intéressant, c'est que nous, notre vrai objectif, c'est de toucher les personnes qui sont peu ou pas engagées pour leur dire que vous pouvez vous aussi agir à votre échelle, parce que le boycott, c'est quelque chose qui est individuel et qui concerne vous et votre conscience.
Et comment vous faites pour les toucher? Vous aidez des réseaux sociaux?
C'est ça, les réseaux sociaux, les parrains comme notamment Guillaume Meurice et les vidéos virales que nous montons. Et on va directement dans la rue et on va aussi demander aux consommateurs. Typiquement, les personnes qui sortent de la marque qui est visée par une campagne de boycott, qui est consommateur, on lui demande de manière bienveillante qu'est-ce qu'elle pense de la marque, etc. et tout. On lui annonce le scandale, souvent les personnes sont unanimes. Ils participent aussi au boycott parce qu'il y a une frustration et une fracture de confiance avec la marque.
Et les ventes, vous nous redonnez l'adresse de votre plateforme?
Alors c'est i-boycott.org.
Et vous sortez également un livre, À vos marques, pré-boycotté, tout petit livre avec le point levé, aux éditions La Relève et La Peste. Merci beaucoup les ventes d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Et bonne journée. Et puis n'oubliez pas d'ailleurs que si vous êtes également à l'origine d'une initiative pour la planète, si vous avez besoin d'aide aussi pour monter un projet, eh bien Chantal Le Montagnier attend toutes vos idées sur franceinter.fr et sur la page de La Terre au Carré. Allez, dans un instant, on voyage avec notre invité découverte, direction les îles, 6 îles exactement, à travers le monde, qui ont su trouver des solutions pour faire corps avec les éléments.
I'm your summer girl. I need you, I need you to understand. These are the earthquake drills that we ran under the freeway overpass. The tears behind your dark sunglasses, the fears inside your heart's deepest gashes. Walk beside me, not behind me. Feel my unconditional
Summer Girl, c'était Haïm.
La Terre au carré. Camille Cronier.
Bonjour Fanny Rubien.
Bonjour.
Vous êtes géographe et vous avez réalisé avec Adrien Pranveil, votre compagnon géographe lui aussi, le film Utopia, à la recherche de l'équilibre, diffusé au festival Cinémater ce week-end à Metz. De quel équilibre parlez-vous dans le titre ?
Essentiellement de l'équilibre entre l'homme et son environnement. Ce film raconte l'expédition qu'on a menée autour de différentes îles dans le monde, à la base pour étudier les impacts du changement climatique. Mais finalement, ce qu'on s'est vite rendu compte, c'est la perte du lien à la nature et la perte d'équilibre, justement, qu'il existe entre l'homme et son milieu de vie.
Oui, parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que les dégâts sont causés par l'homme avant tout. Hein.
Exactement.
Vous parlez de surpêche.
Exactement. Nous, on est géographe et on s'était spécialisé dans la recherche sur le changement climatique et la vulnérabilité des sociétés face au changement climatique. Donc, on est parti surtout pour aller rendre compte de ce changement climatique sur place. Mais finalement, même si on a vu qu'il y avait des effets du changement climatique qui est ressenti partout par les populations, ce qui était le plus visible, c'était finalement l'impact local direct de l'homme sur son milieu par les pollutions, la surexploitation des ressources par exemple, ou l'érosion de la biodiversité. Et ça, c'est plutôt en lien avec la mondialisation, la modernisation qui touche aussi ces espaces.
Alors vous êtes parti en Indonésie, aux Marquises, au Panama, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Açores, aux Canaries, à Hawaï. Pourquoi vous avez choisi les îles en particulier? Pourquoi pas un autre territoire?
Alors les îles, on dit que ce sont des laboratoires du développement durable. Parce qu'en effet, finalement, les pressions qu'on rencontre dans nos sociétés modernes sont concentrées et sont plus importantes sur ces espaces du fait de l'éloignement, de l'isolement, de la rareté des ressources, de la finitude de l'espace aussi, et leur forte exposition aux aléas naturels. Et donc finalement, les scientifiques les classent comme les territoires les plus vulnérables face au changement climatique. Mais on oublie un petit peu que ce sont ces mêmes caractéristiques qui finalement peuvent imposer une sorte d'autosuffisance et d'entraide qui fait que sur une île, en fait, soit on s'adapte, soit on disparaît. Et ces îles sont finalement, pour la plupart, peuplées depuis des millénaires par des populations qui ont dû s'adapter aux changements, qui vivaient en harmonie avec leur environnement. Et donc, on a voulu s'inspirer de ces stratégies d'adaptation et finalement cette forme de résilience qui est fondée sur les connaissances locales et l'expérience du milieu.
Vous avez observé des choses communes à toutes ces îles, même si elles ne sont absolument pas au même endroit de la Terre ?
Oui. Des choses communes, notamment par rapport aux impacts du changement climatique, qui en commun, on a la hausse des températures qui est ressentie partout sur toutes les îles, et le décalage des saisons également. Alors qu'on pourrait penser submersion, c'est pas les choses qui revenaient en priorité. Bon, après, c'est des îles qui sont plus... C'est pas forcément des îles basses, il y a aussi des îles hautes, donc la submersion est quelque chose de moins problématique. On a aussi remarqué une érosion des connaissances traditionnelles locales, des savoirs qui finalement se perdent et donc qui entraînent une perte aussi de ce lien à l'environnement. Mais et aussi dans chaque île finalement qu'on avait sélectionné au départ, une envie de retrouver ce lien à l'environnement et de se rendre compte qu'on a fait des erreurs par le passé de développement et finalement de s'appuyer sur les écosystèmes et sur ces connaissances locales pour aller vers une autre dynamique plus vertueuse.
Alors moi, votre film, il m'a un peu fait penser à un demain des îles. Hein. On voit des solutions pour préserver le corail, de l'agroécologie, des enfants sensibilisés au milieu marin, aux marquises par exemple. Et puis, vous nous faites aussi rencontrer les Kuna, un peuple indigène, hein, c'est ça, au large du Panama, sur l'île d'Ustupo. On écoute un extrait.
La première opposition que nous avons est le concept de facteur de production avec le monde capitaliste et occidental. La terre est vue comme un facteur de production dans l'économie classique, alors que selon le principe fondamental Kuna, la terre est considérée comme la mère, Nabguana, la terre-mère. Le concept de la fraternité, selon nous, inclut tous les êtres vivants, mais aussi non vivants, comme les astres et les pierres. Pour les Kuna, chaque chose a sa place dans ce monde.
Voilà le témoignage d'un des Kuna que vous avez rencontré. C'est ça la clé, finalement, c'est faire corps avec la nature, c'est pas se l'approprier.
Oui, j'en suis persuadée. Je pense qu'à la base de toutes les initiatives qui peuvent se développer, qu'elles viennent des citoyens ou des élus, des entreprises, il faut à la base qu'il y ait cette identité, ces valeurs fortes, ces croyances qui, par exemple chez les Kuna, en fait, sont des croyances animistes, mais c'est plus que des croyances, finalement, c'est tellement une valeur qui est ancrée dans leur mode de vie. Pour eux, ce n'est pas possible d'exploiter la nature, de la surexploiter. En tout cas, ils l'exploitent de façon avec sagesse, en fait, finalement.
Ils prennent ce dont ils ont besoin, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ils vont dans la forêt, ils n'en prennent pas plus.
C'est ça, et c'est vrai que ce sont ces valeurs finalement qui sont portées par une société qui vont conditionner le rapport que les individus entretiennent avec leur environnement. C'est une des réflexions qu'on a eues quand on a vécu là-bas sur place avec les Kuna.
Alors, vous êtes allé également aux Canaries, sur l'île de El Hierro. Là, vous nous avez montré une prouesse, entre guillemets, technologique, mais qui est faite avec les éléments, à savoir une centrale hydroéolienne, c'est ça ?
Oui, c'est ça, un exemple, finalement, d'île durable qui est assez parlant, parce qu'il correspond, enfin, l'île entière est concernée par ce changement de cap. C'est El Hierro aux Canaries qui finalement est une île très éloignée de l'archipel et du centre un peu économique qui est basé sur le tourisme aux Canaries. Et donc ça, le fait d'être éloigné comme ça a obligé les acteurs politiques locaux à trouver une forme de développement local alternative qui est fondée sur les ressources de l'île. Et donc dans les années 80, un élu s'est lancé dans ce grand défi d'arrêter l'importation de fuel et de créer une centrale hydroéolienne qui s'appuie sur l'énergie de l'eau et du vent et qui en fait est une prouesse technique et aussi qui est la forme d'une grande volonté politique parce qu'il s'est battu pendant 30 ans pour obtenir cette centrale qui aujourd'hui permet quasiment 100% d'énergie renouvelable et puis d'autosuffisance en énergie.
Vous dites que la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a pris conscience de ça, de ce développement, on peut réparer nos écosystèmes. Nous aussi, au quotidien ?
Oui, oui, exactement. Ça, c'était une des choses que l'on a aussi découvertes sur place. Et ça, là aussi, la géographie de terrain, c'est qu'on va sur place et on voit comment évoluent les territoires, comment sont les territoires, quelle est la réalité, finalement. Et on s'est rendu compte que finalement, quand on s'appuie sur la résilience des écosystèmes, quand les hommes finalement prennent conscience peut-être des erreurs qu'ils ont fait par souvent par ignorance, hein, comme c'était le cas par exemple en Indonésie où ils ont détruit les coraux à la dynamite. C'était par ignorance, et finalement après, quand on fournit les efforts pour régénérer les écosystèmes, ça peut aller très vite et la nature pardonne
et reprend ses droits, voilà. Comme on dit. Merci beaucoup Fanny Rubia. Donc je rappelle le titre de votre film Utopia, à la recherche de l'équilibre, diffusé dans le cadre du festival Cinémataire jusqu'à dimanche à Metz. Toute la programmation est en ligne sur le site de La Terre au Carré.